Donc on va faire aujourd'hui Bezrat Hashem le cours sur la Tefila, sur le thème du Ve'al Anitim, Ve'al Apurkan. Dans le Patach Yahou, c'est la page 68, si je ne me trompe pas.
68, tu l'as dit.
Enfin, ou bien dans les autres, on peut le retrouver dans les autres Tefila, de Mincha et d'Ervik. Donc on va essayer de décortiquer ensemble le Ve'al Anitim. Je ne sais pas si on aura le temps de le finir aujourd'hui, peut-être on devra le finir demain. Bon, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Et ce qu'on va voir dans le Ve'al Anitim, c'est qu'en vérité, dans le Ve'al Anitim se cache ici tout l'enjeu de la guerre et de la victoire de Hanouka. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser que Hanouka c'est simplement une victoire militaire ou que Hanouka se limite uniquement au miracle des bougies et de la fiole d'huile, comme ce qu'on a pu expliquer jeudi dernier, on va développer ensemble, on va voir que dans le Ve'al Anitim, entre les lignes, on va découvrir l'enjeu de cette guerre. Donc on va prendre ensemble Ve'al Anitim. Vous avez
oui.
Alors, Ve'al Anitim, Ve'al Apurkan. Donc, comme on l'a expliqué dans le cours de Mishnah Brura, que le Ve'al Anitim est intercalé dans la bracha de Modim, puisque Modim, c'est une bénédiction dans laquelle on remercie Akadosh Baruch Hu. Donc, le Ve'al Anitim, Ve'al Anitim. Donc, le Ve'al Anitim, on va remercier également Akadosh Baruch Hu sur le miracle qu'il nous a fait. À Purim, pour le miracle de Purim, et à Hanouka, pour le miracle de Hanouka. Donc, Ve'al Anitim, Ve'al Apurkan. Vous remarquerez que dans le Ve'al Anitim, on a beaucoup de, j'ai envie de dire, de synonymes. C'est-à-dire que pour dire la même chose, on va le répéter 5 ou 6 fois. Vous allez voir, tout de suite, ça va commencer, là. Ve'al Anitim, nous te remercions, Akadosh Baruch Hu, pour le miracle. Ve'al Apurkan. D'accord? Traduction littérale de Purkan, c'est sauvetage, ça veut dire rédemption. Ve'al Agevurot. D'accord? Pour les actes de puissance. Ve'al Ateshuot. Pour les actes de salut. Ve'al Aniflaot. Pour les merveilles. Je viens de dire ces 5 mots, qui veulent dire à peu près la même chose. On est d'accord? Ve'al Anechamot. Pour la consolation. D'accord? Pourquoi pas? Donc, on a rajouté un sixième, voilà, c'est pour ça que j'ai dit 5 ou 6. Donc on a ici 5 ou 6 mots qui veulent dire à peu près la même chose. On est d'accord? C'est à peu près la même chose. Bon, miracle, rédemption, acte de puissance, acte de salut, hein, c'est à peu près la même chose, non? Vous trouvez des différences?
Oui, quand même.
Il y a des nuances, c'est sûr qu'il y a des nuances. Mais bon, ça veut dire à peu près la même chose. C'est justement ce qu'on va essayer de développer. Chez Assita la beauté, nous, que donc on te remercie à Kadosh Baruch Hu pour tous ces miracles que tu as fait. Bayamim Ha'em, Bizemanazé, en séjour à cette époque.
Ah, c'est pas écrit comme ça. D'accord. C'est pas traduit comme ça.
Alors, comment il est traduit? De nos jours?
En ce temps-là.
En ce temps-là.
En ces jours-là, en ce temps-là.
Alors.
En ce temps-là, pardon.
Alors, justement, en ce temps-là, ça veut dire quoi, en ce temps-là?
Aujourd'hui.
Ah, ben non.
Ah, voilà, c'est ça. C'est bien évident.
Parce que, en ce temps-là, ça peut vouloir dire aussi, en ce temps-là.
En ce temps passé,
oui. Voilà, donc, en ce, Bizmanazé, il faut traduire par, Bizmanazé, ça veut dire à cette époque. Voilà. Page 68 dans le Patachido.
Ah, 68.
68. Ou bien, oui, ou bien, c'est la même chose. Alors, on nous dit la chose suivante. Donc, ça, c'est l'introduction qui a et pour Purim et pour Hanouka. Bon, on va remercier Akadosh Baruch Hu pour un miracle.
Ici, c'est d'accord. La page 94.
Maintenant qu'on a fait l'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Bimé Matityahu ben Yohanan, Kohen Gadol, Hashmonaï Ubanan. À l'époque de Matityahu, fils de Yohanan, Kohen Gadol. Donc, on nous dit que, les commentateurs nous expliquent, ils nous disent que ce... Donc Matatia, on l'appelle aujourd'hui Matatia. Matatia était le fils de Yohanan, qui lui-même était un Kohen Gadol, donc un grand prêtre, qui lui-même était le fils de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, on en parle dans le premier chapitre de Pirkei Avot. On dit que c'était un des rescapés de la Grande Assemblée. Et la Grande Assemblée qui a par exemple qui a fixé le texte de la Tfila, qui a fait vraiment beaucoup de choses. Knesset HaGedola. Merci beaucoup, Zach.
Comme il s'agit de grand prêtre.
Il y avait un grand prêtre par génération et il y avait toujours un grand prêtre de rechange, un ou deux, au cas où.
Celui-là, c'est quoi? Il parle ici
de... Alors, c'est Matatia, fils de Yohanan, qui était un Kohen Gadol, d'accord? Et fils de Shimon HaTzadik. Donc lui, c'était Matatia. Alors, on les appelle les Hashmonaïm, d'accord? Hashmonaïm, ça veut dire quoi un Hashmonaïm? Hashmonaïm, ça veut dire quoi en hébreu? Ah, vous savez qu'on va bien s'arrêter dessus, on finira demain. Pas grave.
Hashmonaïen.
Ah, c'est quoi les Hashmonaïen? Ça veut dire quoi Hashmonaïen?
Moi, je sais pas.
C'est leur degré de religiosité, ceux qui respectaient la Bible.
Écoutez bien. Il y a plusieurs explications. Il y a une première explication, alors ce qui rejoint un peu ce que M. Benichou dit, du Avudram, qui dit que Hashmonaï, c'était le surnom de Yohanan. Non, c'est un surnom. Donc du coup, étant donné que Yohanan, c'était le grand de la famille, donc du coup, la famille a pris le surnom du chef de la famille. Ça, c'est une première réponse. Mais il y a une deuxième réponse, d'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on voit, de nos jours, quoi, que la famille, des fois, va suivre le nom du plus grand. Il y a une deuxième réponse. du Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch, qui dit que Chashmonaï en hébreu, ça vient du terme Gdoula, grandeur. Ça veut dire que quand on, c'était une manière de déterminer.
Comment on vient de comment
ouais, c'est bizarre, ça.
Alors, il amène, c'est écrit Yetayu Chashmanim, dans Tehilim. Dans Tehilim, c'est écrit Yetayu Chashmanim, ou je crois que c'est dans le psaume 88, si je ne me trompe pas. Donc Yetayu Chashmanim, et dans ce psaume-là, le Chashmanim, c'est du sens de force. Sauf que là-bas, c'est pas écrit Chashmonaim, c'est écrit Chashmanim. D'accord? Donc le Beit Yosef, il dit que c'est la même chose, que Chashmonaim, Chashmanim, c'est synonyme de force. Bon. Donc à l'époque de Matatia, fils de Yohanan, Matityahu, d'accord? D'ailleurs, vous remarquez que dans le mot Matityahu, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le nom de Dieu, Yudke, d'accord? Et Matityahu, c'est quoi? C'est Matat. Matat en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire un nom, ça veut dire un don, d'accord? Eh ben oui. Alors, attention, il y a Matat avec un Tet et Matat avec un Tav. Matat avec un tête, c'est pas le cas chez nous, c'est le nom d'un ange destructeur.
C'est un bâton.
D'accord, non, Matat, non, oui, ça c'est Maté, un bâton. Matat, j'ai même pas le droit de le dire en vérité. D'accord, même tête, oui, j'ai même le dire, il faut pas prononcer son nom. C'est le nom d'un ange destructeur. Parce que le nom d'un ange destructeur, et même dire son nom n'a pas le droit.
C'est l'ange qui a détruit.
C'est mais.
Alors.
Qui a détruit ses dons?
Bon, peu importe ce qu'il a fait. En tout cas, c'est le nom, même son nom, j'ai pas le droit de le dire. Bon, je l'ai dit deux, trois fois. Alors. Je me pardonne.
Avec un
tav, c'est le contraire. Ça veut dire un don. Matat, un don. Donc, matat, yutke.
Noten à Torah.
D'accord? Exactement, comme noten.
Matanim.
Ça veut dire, c'est le nom qu'il a donné. Il dit matat, yutke, ça veut dire Dieu nous l'a donné.
Un cadeau de Dieu.
Et donc, matatia, fils de Yohanan, qui était Chashmonaï, ou Vanav, et ses enfants. Donc, il était avec ses enfants. Donc, à son époque, Keshamda, Machutiavan, Areshara, Alamcha Israël. Lorsque la royauté de la Grèce, Areshaa, d'accord, donc on dit tout de suite Areshaa, ça veut dire cruel. Qui avait un pouvoir, aujourd'hui on appelle méchant. Le pouvoir hellénique, d'accord, donc un pouvoir hellénique qui était cruel, qui était méchant. Qu'est-ce qu'il voulait ce pouvoir? Il est venu à l'Amcha Israël. Donc il a pris pouvoir, il s'est levé contre Israël, Leashkicham Torah, donc sur ton peuple Israël, puisqu'on parle à Dieu, Leashkicham Torah Techa. Qu'est-ce que voulaient les Grecs?
Oublier la Torah.
Leur faire oublier. Non, attention, t'as mal traduit.
Leur faire oublier le.
Non.
Ta Torah.
Ça va tout changer. La Shkicham Torah Techa. C'est particulier là. Leur faire oublier ta Torah. Pas fini. Ou Léa Aviram, cette même royauté, voulait aussi. Léa Aviram, elle voulait donc nous faire oublier, nous faire transgresser. Dans le mot la aviram, c'est comme le mot avera, avera en hébreu qui veut dire une transgression. Donc les aviram, ils voulaient nous faire transgresser. Mechuke retsonecha. Traduction de chuke retsonecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire des décrets de ta volonté. Bien sûr, on fait appel à quoi ici? On fait appel au. Avant, on a fait appel à la Torah. Maintenant, on fait appel à quoi? Au mitzvot. Sauf qu'il y a une manière particulière comment on appelle les mitzvot ici. Les décrets de ta volonté. Pourquoi les décrets de ta volonté? Les Grecs, ils voulaient que, je veux dire, les Grecs, ils voulaient pas qu'on accomplisse les mitzvot tout court.
C'est ce que tu disais d'accord tout à l'heure. Ils voulaient qu'on avait...
Alors, c'est justement ce qu'on a dû expliquer tout à l'heure dans Ayabiyam. On a expliqué que la guerre principale des Grecs n'était pas contre les mitzvot en général. Ils n'avaient rien contre, d'accord? C'était des gens qui avaient de la culture et qui sont ouverts, entre guillemets, qui acceptent le fait qu'il y a d'autres cultures et qu'il y a de l'intelligence partout. Sauf que eux, ce qu'ils n'acceptent pas, comme on a expliqué certains dans Ayabiyam du Rabbi, ils n'acceptent pas le caractère divin. Et donc, on le voit clairement. L'Ashkicham, il voulait nous faire oublier Torah Techa, ta Torah, encore une fois, donc l'aspect divin, le fait que la Torah est la Torah de Dieu, ou Léavir, ou Torah Tar, c'est la même chose, ou Léaviram et Rukir et Tonecha, et il voulait nous faire transgresser les décrets de ta volonté. Les décrets, on sait bien, on les a expliqués plusieurs fois, qu'il y a trois catégories de mitzvot. Il y a Edot, Rukim, Mishpatim. Je vais expliquer. Donc on a tout d'abord le plus simple, c'est Mishpatim. Mishpatim, c'est quoi? C'est des lois logiques. Comme ne pas voler, ne pas tuer, c'est des lois que même si la Torah ne nous l'avait pas dit, on l'aurait compris de nous-mêmes. Edot, c'est des lois qui sont compréhensibles, mais que de nous-mêmes on n'aurait pas compris. On ne les aura pas accomplies comme ça en tout cas. Exemple, le Shabbat. Le Shabbat, maintenant que tu me l'expliques, je comprends. Pourquoi pas, le concept est sympathique. Mais si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas forcément trouvé de moi-même. Il faut se reposer le samedi.
Edot. Ça,
d'accord? Ça s'appelle Edot. Et enfin, on a Chukim. C'est quoi Chukim? C'est des mitzvot que si tu me les avais pas dit, bien sûr, j'aurais pas pensé. Et même une fois que tu me les as dit, je les comprends pas spécialement. D'accord. Et Dot, c'est un témoignage. Ça fait des mitzotes, ça veut dire comment?
C'est
je comprends.
C'est comme le Aïd,
voilà. Ça, c'est Chokim. Et qu'est-ce qu'ils voulaient enlever les Grecs? Ils voulaient nous faire transgresser, pas toutes les mitzotes, mais Chouker et Tsonecha. Ils voulaient nous faire transgresser les décrets de ta volonté, ce qui est lié à la volonté. Remarquez, ici, on parle de la volonté. C'est quoi la volonté? Pourquoi on parle de la volonté ici? Pourquoi on parle pas de, des décrets de ta science, je sais pas, de ton mode de la Torah? Pourquoi on parle de la volonté? Par définition, la volonté, c'est quelque chose qui n'est pas forcément logique. Quand je veux quelque chose, on me dit, mais attends, ça va, calme-toi, etc. Là, je veux. On explique que, c'est expliqué en Chassidoute que lorsqu'une personne veut quelque chose, et que tu lui amènes un produit qui ressemble mais qui n'est pas le même, il n'est pas content. Non, tu dis, mais attends, selon la logique, c'est ce que tu voulais, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu t'énerves? Non, pas content, pourquoi il n'est pas content? Parce que quand on veut quelque chose fortement, c'est ça ce qu'on veut, rien d'autre. C'est précis, je veux ça. La volonté, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié à la logique. C'est plus fort que la logique.
On le pratique.
C'est la même chose.
Ça, tu dis, tu vas voir ça.
D'accord. Là, oui. Alors. Ah oui. La volonté, c'est très très fort. Enfin, aujourd'hui, on explique que la volonté, c'est ce qu'il y a de plus fort chez l'homme, en vérité.
Alors, le désir aussi.
Le désir.
La volonté, plus que le désir.
Alors, la volonté, alors, c'est expliqué en principe deux choses. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça, j'ai pas entendu. Peut-être qu'on le dit en psychologie, mais j'ai pas entendu en tout cas. En principe, c'est expliqué que il y a deux choses qui sont le plus haut dans le corps, c'est, et qui dépassent la logique, c'est la volonté et le plaisir. Le plaisir.
C'est encore plus fort.
Le plaisir, par exemple, on voit que le plaisir n'est pas associé à un membre particulier, à un membre spécifique. Quand j'ai du plaisir, quand je suis content.
Quand je mange un bon repas, bien. J'ai un bon plaisir.
Qui est bien? C'est ma tête, c'est mon corps, c'est mon ventre. Non, je suis bien. Qui est bien? Hein? C'est la même chose que la volonté. Et comme je dis je veux, qui veut? C'est pas ma main, c'est pas mon pied, c'est pas ma tête, c'est je veux. C'est qui je? C'est ce qui est le plus fort chez l'homme. D'accord? Et donc c'est ça ce qu'ils voulaient enlever. Qu'est-ce qu'ils voulaient enlever les Grecs? Ils voulaient enlever Chouke Retsonecha. D'accord? Les Grecs ou la culture hellénique, comme on appelle aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui, ils disent la culture hellénique.
C'est comme quand ils veulent combattre les Israéliens. Ils disent pas, on n'achète pas des produits israéliens. Ils disent, on n'achète pas des produits sionistes. C'est, ouais. Ça passe, tu vois.
La culture hellénique, c'est la culture qui voit actuellement. C'est pareil.
Bien sûr.
Exactement.
C'est pour ça qu'on va en parler. Bon, demain, on en parlera.
Aujourd'hui, vous parlez de Dieu à
exactement.
Français.
Bien sûr. Pas qu'un Français. Ça serait bien si ça serait comprendre.
J'ai constaté hier dans une émission à la télé, ouais, que quand ils parlent de Dieu, c'est pas le Dieu comme nous, c'est Jésus. Leur Dieu.
Non, mais on parle pas de la religion. Mais on parle des laïcs.
Oui, on parle des laïcs. Aujourd'hui, 80% pour l'État français, c'est peut-être elle est complètement laïque. Ouais. Il y a combien qui sont pratiquants?
Oui, mais ça dépend. C'est ce qu'on expliquera demain, Bézrat Hachem, parce que bon, aujourd'hui, on n'aura pas le temps.
Il y a qu'eux qui sont pratiquants.
C'est ce qu'on expliquera demain, qu'il y a plusieurs catégories de laïcs. Vous avez un laïc qui ne veut pas se prendre la tête. Bon, ça lui prend la tête, lui passe prendre la tête, ça lui
casse les pieds. Il y a des laïcs qu'on appelle orthodoxes.
D'accord.
Il y en a qui se disent laïcs orthodoxes.
Non, parce que ça lui prend la tête. Les gens comme ça, c'est des gens qui, finalement, c'est pas très grave ce qu'ils font. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, c'est grave. Mais une personne comme ça, un jour ou l'autre, il commence à se poser des questions. Ça, c'est pas très grave. Le plus grave, c'est les gens qui ont créé une idéologie de la laïcité.
Oui, c'est les laïcs orthodoxes, ça fait.
Ouais, voilà. C'est les gens qui, que pour eux, ah mais ça
ah
c'est
ouais,
le pire
ils ont
ça.
Créé, ils ont
celui-là,
créé
tu le bouges pas celui-là. Non, on en parlera demain.
Ils te prouvent comme des religieux, ils prouvent par la leur laïcité et tout.
Par la logique.
Par la logique, par beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils ont créé, c'est comme s'ils avaient créé.
C'est l'idéologie.
Une religion. Ouais. Et où tout est
marqué comme en Israël.
Alors on va en parler. Bon, ça on en parlera demain.
C'est pas aussi simple que ça.
Demain, on en parlera longuement, Bezrat Hachem, et ce serait bien qu'on commence à l'heure demain, parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de détails sur ça. C'est pas simple, comme il dit Michel, parce qu'il y a beaucoup de détails, et c'est très fin. C'est très difficile de savoir est-ce que les gens aujourd'hui suivent leur cerveau ou leur cœur. C'est une question très compliquée. Et demain, Bezrat Hachem. Donc je disais, qu'est-ce qu'ils voulaient les Grecs? Les Ashkicham Torah Techa. Ils voulaient nous faire oublier ta Torah, ou les Aviram et Chouker et Tsonecha. Les Grecs voulaient nous faire transgresser pas les mitzvot en général, ils ont rien contre les mitzvot. Ils voulaient nous faire transgresser les décrets. Décrets, ça veut dire quoi, on a dit? Ça veut dire, ben, forcément, quelque chose qui n'est pas forcément explicable. Et, Retsonecha, qui sont liés à ta volonté, ça veut dire qu'ils sont plus hauts que la logique, qui dépassent l'entendement. C'est ça ce que les Grecs voulaient enlever.
Il n'y a pas de
sucre. Veata. Et toi, Kadosh Baruch Hu. Berachamecha Arabim. Dans ta grande miséricorde. Prends dans ta grande miséricorde, finalement. Prends, on parle de la grande miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Ça, on expliquera demain, Bezrat Hashem. On expliquera que à Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas de raison de nous sauver dans cette histoire. Parce que le Ham Israël était touché gravement. Amatalaem Bet Saratam. À Kadosh Baruch Hu, avec ta grande miséricorde, Amatalaem Bet Saratam, tu étais présent pour le Ham Israël, tu t'es levé pour eux, Bet Saratam, lorsqu'ils étaient dans la détresse. Tu étais là pour eux. Rafta et Drivam, tu as combattu leur combat. Danta et Dinam, tu as jugé leur jugement. Nakamta et Nikmatam, tu as vengé leur vengeance. Donc vous voyez ici, on a ici trois termes qui veulent dire, enfin, c'est pas la même chose, mais ça veut dire pourquoi ici dans le Valanissim, on a besoin de répéter ces trois choses-là. On dit, tu as combattu leur guerre, tu as jugé leur jugement et tu as vengé leur vengeance. Comment vous voyez ça? Alors ici, j'ai un commentaire qui s'appelle le Iyun Tfila. Bon, il faut peut-être chercher plus loin que ça, mais en tout cas, déjà, il y a une première réponse. Il dit que ces trois termes correspondent à trois termes qu'on retrouve dans la Torah lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il fait la guerre à notre place. Le premier terme, c'était quoi? C'était Rafta et Rivam. Tu as combattu leur guerre. Rive. Rive en hébreu, ça veut dire donc un combat.
Bon, leur guerre ou leur rivaux.
Leur rivaux. Rivam. Alors, tu as combattu, donc, tu as combattu, d'accord? Tu as combattu leur combat. Alors il dit comme ça, il dit d'où ça vient ce terme combattre un combat? Ça vient de Echa. D'accord? Echa, qu'on dit le jour du Tisha B'Av. Là-bas, on demande à Kadosh Baruch Hu, le prophète Irmiya, le prophète Jérémie demande là-bas à Kadosh Baruch Hu, il dit Rafta Hashem Rive Nafshi. Il dit Dieu, tu as combattu les combats de mon âme. Donc c'est la première fois qu'on voit dans la Torah, dans la Bible, que quand on parle de combat que Dieu aurait dû faire à notre place, c'est de ça qu'il se plaint là-bas, on emploie le terme Rive. Dit Dieu, tu aurais dû te combattre à notre place. Donc c'est pour ça qu'ici on a mentionné le terme rive. Ensuite, le deuxième terme qu'on a eu, c'est Danta et Dinam. Tu as jugé leur jugement. Alors c'est toujours dans le prophète Jérémie, mais là c'est plus dans Echa, parce que le prophète Jérémie a écrit plusieurs livres. C'est dans le livre Irmiya, le livre de Jérémie. Et là-bas, le prophète Jérémie, il raconte une histoire et il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit Danta din ani. Toi, Kadosh Baruch Hu, je te remercie d'avoir, donc lorsqu'ils avaient été sauvés, il a dit je te remercie d'avoir jugé le jugement d'un pauvre, en parlant du Ham Israël qui était considéré comme un pauvre à ce moment-là. Donc de là, on voit que le fait que Akadosh Baruch Hu nous aide, ça peut être considéré également comme un jugement. Il y a une première forme, c'est le combat, et deuxième forme, c'est le jugement. Et le troisième terme qu'on a dit, c'est quoi? C'est Nakamta et Nikmatam. Alors c'est quoi Nakamta et Nikmatam? Nekama en hébreu, ça veut dire quoi? On a dit
vengeance.
La vengeance. Tu as vengé leur vengeance. C'est pourquoi venger la vengeance. D'accord? Alors il dit comme ça. Il explique ici que c'est toujours dans Jérémie. C'est intéressant qu'on s'est basé sur Jérémie, sur ces trois termes. Là-bas, Jérémie, à un certain endroit, il amène la prophétie de ce qui va se passer quand Machiav viendra. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu là-bas? Il dit, lorsque Machiav viendra, ineni rav et rifra, je combattrai ton combat, ve nikamti et nikmatra, je vengerai ta vengeance. D'accord? Donc il parle de venger la vengeance. Aujourd'hui, je sais qu'on rappelle beaucoup le terme de venger la vengeance, surtout quand c'est des choses comme la Shoah. On sait qu'il y a un texte qui a été composé par les plus grands Chachamim des pays ashkénazes après les décrets qu'on appelle le Tartat. D'accord? Donc les décrets de Tartat, c'est à l'époque du 200e Tov, donc il y a à peu près 300 ans. Lorsqu'on a eu des pogroms qui ont détruit pratiquement, qui ont décimé plusieurs villes ashkénazes, et ils ont composé un texte qu'on lit tous les Shabbat matin, à part les jours où on dit pas Tachanoun. Et dans ce texte, on demande à Kadosh Baruch Hu de venger
le sang
de ces gens-là. C'est ces trois termes qu'on est en train de voir ici. D'accord? C'est ce que le prophète Jérémie disait. Il disait, le jour viendra où tu combattras leur combat et tu vengeras leur vengeance. C'est venger le sang. C'est-à-dire que, il y a un jugement ici, on fait pas ce qu'on veut.
Venger, c'est en français, on comprend pas que
ça. Oui.
Alors, venger quelque chose. Le sang, venger une personne, venger...
C'est-à-dire qu'on a envie de se venger, mais Dieu, il le fait à notre place.
Alors, pas seulement ça. Donc, on va essayer d'expliquer un peu plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces trois termes? Donc, combattre, je finis avec ça, on continuera demain. Combattre le combat, juger le jugement et venger la vengeance. Il dit comme ça. D'accord? Il dit que, en vérité, ça nous explique la manière comment Kadosh Baruch Hu a procédé. Première chose, lorsque Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'on était en galère, première chose, Kadosh Baruch Hu a combattu pour nous. Sans même réfléchir, sans même voir, entre guillemets, en fermant les yeux, comme on pourrait dire comme ça, sans voir si on était méritant ou pas, sans nous juger. Rafted, rival, je me bats pour vous. Ensuite, deuxième étape, c'est quoi? Deuxième étape, c'est Kadosh Baruch Hu après dit bon, maintenant qu'on a commencé à combattre, je commence à juger, je veux voir est-ce que vous êtes réellement méritant. Kadosh Baruch Hu nous a jugés. Et qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Explique le Yun Tfila. Kadosh Baruch Hu nous a trouvé méritant. Bien qu'a priori on était très très loin d'être méritant. Il a réussi à trouver des circonstances atténuantes et de trouver qu'on était méritant. Donc du coup, s'il est méritant, non seulement qu'on va combattre le combat, mais en plus de ça, on va carrément le venger cette personne-là. Parce qu'on dit c'est pas normal qu'il a reçu un coup. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La première étape, c'est d'abord il nous défend. Bon, c'est possible que. Vous savez, des fois vous défendez quelqu'un, mais bon, c'est possible qu'il a fait une guerre.
Donc on peut se venger alors.
Voilà. Attendez. D'accord? D'abord je le défends. Mais quand je le défends, ça veut pas dire que je lui donne raison. Ça veut pas dire qu'il faut le venger. Bon, je te défends. Après, il a jugé. Et il a vu que vraiment, il était Zakai. Il était méritant et qu'il n'y avait aucune raison de lui faire ça. Alors là, est venue la troisième étape. J'ai dit, dans ce cas-là, je veux venger votre vengeance. D'accord? Et c'est ce qui explique le fait, d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, on raconte le miracle. On a l'impression que ça a duré 8 jours, mais le miracle n'a pas duré du tout 8 jours. C'est une guerre qui a duré très longtemps. Je sais pas si vous savez, cette guerre-là. Le miracle des 8 jours, c'est une fois qu'on a gagné la guerre. Quand on voulait allumer les bougies de Hanouka, il y a eu le miracle des bougies de Hanouka. Mais c'est une guerre qui a duré très longtemps. D'accord? C'est une guerre qui a duré très longtemps, puisque d'ailleurs, l'oppression grecque est venue progressivement. Et après, les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont commencé donc à se battre, ils se sont d'abord battus dans leur propre ville, qui était la ville de Modi'in. D'accord? Et ils ont eu une victoire locale. Et c'est cette victoire locale qui les a encouragés à élargir leur champ de bataille, d'accord? Et d'aller chercher plus loin. Mais ça a pris du temps, tout ça. Jusqu'à Jérusalem. Ça a pris du temps, tout ça. D'accord? Je crois que ça a pris 3 ans, 3 ou 4 ans. C'était long, c'était très long.
Et finalement, les pauvres, ils se sont fait
après, ouais.
Massacrer après.
Par chez nous, ouais, par nous.
Par nous.
Ouais, bien sûr, ouais. On en parlera demain. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, tel que j'ai présenté les choses, on a l'impression que les âmes Israël sont méritants. On expliquera demain que c'est pas si simple que ça. Que le Midrash me dit que la majorité des âmes Israël à ce moment-là était hellénisant. Faut le savoir.
Ben, c'est très...
On l'a dit hier. Hein.
Non, ouais.
Oui, mais ils ont une certaine opinion. Ils sont venus.
Ah oui, mais attends. D'accord. Quand même.
Eux-mêmes, ils se sont dit tiens, on va devenir aligné.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'on dit ici les trois étapes. D'abord, ils se battent à notre place. Après, ils nous jugent. Ils nous trouvent méritants. Ils disent bon, ben, dans ce cas-là, je les ai pas assez défendus. Tiens, je vais les venger.
C'est que malgré tout, on était méritants.
Attends, mais comment ils nous ont trouvé méritants?
C'est que malgré tout, on l'était.
D'accord. Comment il a fait? On en parlera demain, je vais. Et vous verrez qu'on aura encore après beaucoup. Demain, Bézrat Hachem, on expliquera la suite.
Demain, on aura droit à un grand exposé. Hein.
Tous les détails, ah oui. Parce qu'après.
Demain,
bien sûr. Parce que regardez dans la suite. Après, on dit tu as livré des forts dans les mains des faibles, ouais. Les nombreux. Il y a plusieurs thèmes. On va répéter au moins 6 ou 7 termes. Ouais. On va expliquer demain que chaque terme correspond à une parcelle particulière de l'histoire et un aspect particulier de l'histoire. Mais ça, demain, me rattache.
À demain, ouais. Alors.
À demain.
Mais la vengeance, c'est quand même incroyable. Hein. Qu'on prône la vengeance, en fait.
Ouais. Pas, oh, putain, qu'on mérite la vengeance.
Ouais. Et pourquoi alors?
Ça veut dire que, quelque part,
nous, c'est pas un sentiment. C'est écrit comme ça, d'accord? C'est une bonne question que tu poses. C'est écrit, dans le prophète, il dit « Elokim yevakesh et anirdaf ». C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'une personne qui est poursuivie et que tout le monde l'embête, on lui demande pas forcément de chercher à se venger une fois qu'il a repris sa stature. Mais par contre, on lui dit Elohim Yahaneh Tanirdav, que c'est Dieu qui s'en occupera. C'est-à-dire que le concept de la vengeance existe, mais c'est pas forcément à nous de le faire.
Ah, c'est ça.
D'accord. Nous, c'était d'ailleurs la grande question qui s'est posée au ghetto de Varsovie. Dans la révolte du ghetto de Varsovie, il y avait une grande marloquette, malheureusement.
Doit-on combattre ou pas?
Ouais. C'est pour se défendre, c'est pas une vengeance.
Et non, c'était pas seulement pour se défendre. Non. Il y avait une révolte. Non. Il y avait des gens qui géraient le combat qui savaient très bien qu'ils allaient partir. Ils savaient très bien.
Bon, mais au moins se défendre l'honneur.
Aller dans la chambre à gaz.
Je pense que même tous, pratiquement, qui sont combattus au ghetto d'Arsovie, ils savaient tous qu'ils combattaient, où ça allait finir. Je pense qu'ils se sont tous dit, on va se battre au moins, mais on
sait
combattre.
Il y avait un esprit de révolte, et de vengeance.
Je crois qu'ils défendent au moins l'honneur comme des moutons.
Alors, nous, a priori, ce qu'on voit ici, c'est que... On est mignonne ? Attends, juste 2 secondes. Nous, ce qu'on voit ici, c'est que... 2 secondes. C'est que... On ne nous demande pas à nous de nous venger. D'accord, mais par contre, le fait que Kadosh Baruch Hu venge une personne, c'est quelque chose qui est totalement acceptable, il n'y a pas de problème.
C'est pas que c'est acceptable, parce que c'est juste. On est sûr que Kadosh Baruch Hu va le faire de manière juste, parce que quand on se venge, il y a un sentiment de
colère. Là, il y a trois choses, vous avez compris les trois étapes. Ah, d'abord, il se bat à notre place, après il nous juge, Et une fois qu'il nous a jugés, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, ben j'ai vu que vous étiez méritant, alors dans ce cas-là, c'est pas seulement que je veux me battre à votre place, je vais vous venger. D'accord?
C'est plus une vengeance, ça.
Ah si.
C'est la providence agir, quoi, tu vois,
c'est pas une vengeance.
On n'a pas dit ce qu'on a fait, nous.
Oui, non, mais bon, faut...
Allez, Kedusha, bravo.